Et notre spécialiste ce soir se nomme Cyril Maillard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la formation au sein du partenariat Béjune, l'institution qui forme en quelque sorte les meilleurs talents footballistiques de l'arc jurassien. On va revenir un peu sur le match de l'équipe de Suisse hier, puisque vous étiez au Parc des Princes à Paris. Racontez-nous déjà un petit peu l'ambiance.
C'était vraiment une superbe journée avec en plus un temps presque idéal pour jouer au foot. On a eu presque du soleil tout le match, une atmosphère vraiment conviviale avec deux fans entre Roumains et Suisses avec vraiment aucune animosité. C'était vraiment la fête du foot.
On a dit beaucoup de Suisses qu'on a vu dans le public, c'est quelque chose que vous confirmez?
Oui, beaucoup de Suisses, mais on sait que les Suisses sont capables de se mobiliser. Je me souviens d'avoir vu un match en Allemagne lors de la Coupe du Monde face au Togo. C'était aussi un moment extraordinaire. Hier aussi, c'était assez extraordinaire pour les joueurs d'arriver là. Et vous avez entre 15 et 20 000, j'imagine, personnes qui étaient tout en rouge. Donc, je pense que la natif fait encore vibrer les fans.
Justement, avec ça, vous contredites un petit peu l'impression que j'avais depuis le début de ce tournoi, à savoir que l'équipe de Suisse soulève un petit peu moins les passions qu'avant. C'est pas un sentiment que vous avez, vous ?
Je l'ai pas eu hier, mais en étant en live avec plein de gens et voir tout ce qu'il y avait autour de cette équipe, c'est un peu difficile de parler négativement. Maintenant, il y a beaucoup d'interrogations. Peut-être qu'on attend beaucoup de cette équipe et il y a eu beaucoup de critiques aussi par rapport à la façon dont on joue l'équipe suisse depuis quelques années, on va dire, et particulièrement durant la phase qualification. Mais finalement, au bout du compte, on est quand même un petit pays. Et puis, on se qualifie presque chaque fois à l'Euro ou à la Coupe du Monde depuis pas mal de temps. Et imaginez, les générations précédentes n'avaient jamais la possibilité de voir une équipe suisse dans un grand rendez-vous. Donc, c'est quelque part extraordinaire. Et puis, j'ai l'impression que maintenant, on est devenu très, très exigeant.
Alors vous parlez justement de qualification, la Suisse y est presque en huitième de finale, on ne va pas se cacher. Mais après ces deux premiers matchs, est-ce que vous avez l'impression que la Suisse peut aller loin dans ce tournoi avec une défense qui est même un petit peu friable et surtout ce manque de réalisme dont on parle régulièrement?
Loin, c'est vraiment très prétentieux de penser que la Suisse peut aller loin. Je dirais se qualifier en quart de finale serait déjà un énorme exploit. Parce qu'il faut bien voir le contexte aujourd'hui. Les joueurs suisses dont on attend beaucoup n'ont pas fait une grande saison, ne sont pas dans une forme extraordinaire. Seferovic a très peu marqué en Allemagne. Shaqiri a très très peu joué et marqué en Angleterre. Et aujourd'hui, on attend que ces joueurs soient extraordinaires, marquent, soient décisifs. Et je crois que là, il y a un petit décalage entre la réalité aujourd'hui de nos internationaux et ce qu'on aimerait pouvoir les voir s'extérioriser et être extraordinaires à travers cet Euro.
Alors, est-ce qu'il faut les faire jouer? Si on prend l'exemple de Seferovic, par exemple, on a un Brel Embolo sur le banc qui a cartonné en Suisse. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt le mettre lui, du coup?
On peut discuter, forcément. Moi, je ne suis pas à la place de Petkovic. C'est lui qui est avec les joueurs, qui les suit, qui les entraîne. Donc, il y a forcément des choix qui doivent être faits liés aussi à un niveau de jeu. Pourquoi il n'y a pas plus de joueurs suisses qui font le championnat suisse? C'est aussi parce que le championnat suisse est ce qu'il est. Pour avoir vu Embolo hier, il amène quelque chose, mais il n'a pas été non plus très transcendant. Sur ses deux rentrées, il n'a pas été décisif. Il a été un peu brouillon. Il a sa jeunesse, mais aujourd'hui, c'est pas l'Embolo qu'on a vu des fois, parfois avec le FC Bâle.
La prochaine échéance pour l'équipe de Suisse est dimanche, déjà à 21h, ce match que tout le monde attend contre la France. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que la Suisse est capable de bousculer, on va dire l'ogre quand même, parce que c'est un ogre, l'ogre français?
Sur ce que j'ai vu hier, j'étais vraiment, vraiment enthousiaste, en tout cas sur ce qu'on a vu, avec ce que vous avez relevé, sur les lacunes et ce manque d'efficacité, et par moments, une défense qui est un petit peu aux abois, mais je dirais qu'elle est très joueuse. Hier, elle a été très joueuse, et le milieu de terrain particulièrement m'a énormément plu, dans la disposition aussi du jeu, du terrain, dans l'utilisation de l'espace, les Suisses étaient bons. C'est clair que la Roumanie n'a pas été fantastique. Demain ou après-demain, dans le prochain match, ça sera plus compliqué. Il faudra voir aussi comment la France aborde ce match. Est-ce qu'elle va faire un turnover avec ses joueurs ou bien véritablement vouloir finir première avec une équipe qui sera vraiment impressionnante, parce que la France est d'un autre niveau que notre équipe suisse.
Merci déjà Cyril Maillard, on se retrouve dans un instant pour parler cette fois-ci des matchs du jour, l'Angleterre qui s'est imposée il y a quelques instants et aussi bien sûr du choc qui attend l'Allemagne ce soir qui affronte la Pologne.
Fanzone, le quart d'heure des spécialistes.
On se retrouve pour la deuxième partie de cet entretien avec un spécialiste du ballon rond. Aujourd'hui, le responsable de la formation au sein du partenariat Béjune, Cyril Maillard, est notre invité. Revenons sur le résultat de l'Angleterre qui a gagné contre le Pays de Galles 2-1 tout à l'heure. C'était laborieux, Mais l'Angleterre désormais sur les bons rails.
Oui, on voit dans cet Euro, il n'y a pas un match facile. Tous ces matchs se jouent à des petits détails, à des buts qui sont marqués souvent en fin de match. Et l'Angleterre, qui avait été quand même assez bonne contre la Russie, était assez laborieuse aujourd'hui, a dû lutter, a dû vraiment travailler. Et finalement, c'est presque sur une action un petit peu anodine et un rebond et puis une espèce de pointu qui permet aux Anglais de marquer trois points extrêmement importants et puis peut-être retrouver aussi une forme de sérénité.
Justement, la planète football parlait souvent quand même de l'Angleterre comme un des favoris de ce championnat d'Europe. Ça reste un des favoris d'après vous ?
Je pense par rapport à l'effectif qui la compose avec des joueurs comme Rashford qui sont incroyables à 18 ans, ce qu'il est capable de faire. Il entre aujourd'hui, il est décisif. Des Rooney qui sont quand même là et pas mal de joueurs qui sont issus de Tottenham particulièrement qui sont en pleine maturité. Donc oui, l'Angleterre est l'une des favorites, mais à partir des huitièmes de finale, c'est match coup près. On sait que ça peut se jouer sur des pénaltys, ça peut se jouer sur un but en fin de match. Donc forcément, il y a beaucoup d'équipes qui lorgnent sur le titre, mais finalement, ça ne sera pas évident.
On va maintenant parler du groupe C, avant de parler justement du choc Allemagne-Pologne. Un petit mot peut-être sur la partie qui commence dans quelques minutes à 18h. Elle est un petit peu moins alléchante, on ne va pas s'en cacher. L'Ukraine affronte l'Irlande du Nord et les Ukrainiens partent favoris avec ce qu'on a vu contre l'Allemagne.
Oui, forcément. L'Ukraine a quand même une équipe qui est capable de faire du jeu. Elle a quand même inquiété l'Allemagne. Hein. Franchement, sans un œil absolument extraordinaire sur une ou deux phases de jeu, l'Ukraine doit passer le cap de l'Irlande du Nord qui a été vraiment minimaliste. L'autre jour, c'était un petit peu un match à dormir debout, malheureusement, mais elle fait avec ses moyens, elle fait avec son énergie, son fighting spirit typiquement irlandais. Mais je pense que sur ce match, ça devrait être compliqué parce que le niveau technique de l'Ukraine avec des joueurs offensifs quand même d'un certain potentiel, je pense que ça devrait suffire pour l'Ukraine.
Justement, comme pour des équipes comme l'Irlande du Nord qui ont tout placé sur la défensive lors du premier match, il va falloir un petit peu ouvrir le jeu dans un match comme aujourd'hui, vous pensez ?
Je crois pas. Je crois que c'est une équipe qui a une mentalité, etc., qui est forte là-dessus et qui mise surtout sur Lafferty en contre. Je la vois mal arriver puis aller chercher les Ukrainiens dans leur camp puis à poser le jeu. Ils ne sont pas capables de faire ça. Donc on risque de voir plutôt une Ukraine qui tente à trouver des solutions et puis une Irlande qui s'accroche et qui, pour elle emmagasine de l'expérience dans un Euro. C'est déjà fantastique de la trouver là.
Deuxième match du groupe C ce soir, c'est bien sûr le choc Allemagne-Pologne. Les deux équipes avaient déjà croisé le fer pendant les qualifications pour cet Euro. Victoire des Allemands 3-1 à domicile, victoire des Polonais 2-0 chez eux. Ça s'annonce serré ?
Oui, ça s'annonce serré. Je pense que c'est le coup est jouable. Les Allemands ne sont pas encore pas sereins, et même si ils ont quand même acquis une victoire importante contre l'Ukraine. Les Polonais aussi ont fait ces trois points qui étaient, à mon avis, indispensables. Et là, on a un choc du groupe. On pense clairement que ces deux équipes vont passer, logiquement. Et elles sont aussi... l'Allemagne est clairement une des favorites en étant championne du monde. Et puis, la Pologne, c'est la génération que toute la Pologne croit. C'est l'outsider presque numéro un. Et elle va poser des problèmes à cette Allemagne ce soir. Mais de nouveau, ça reste un match dans les qualifications. C'est surtout à partir des huitièmes de finale qu'on y verra un peu plus clair.
Vous parlez de Pologne comme outsider. Comment est-ce qu'on... On peut expliquer son statut au jour d'aujourd'hui ?
Parce que la Pologne est composée de joueurs qui jouent dans tous les pays européens, avec des joueurs qui sont d'un niveau extraordinaire. Je pense surtout à Lewandowski, qui est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Donc forcément, on la respecte. Et puis, dans les qualifs, elle est souvent impressionnante. Elle a été à domicile particulièrement prolifique en but. Elle joue un jeu assez efficace, simple. Elle rappelle un petit peu le jeu de l'ex-URSS, qui était très très bonne techniquement, qui se projetait à l'avant, qui va vite. Et puis là, maintenant, c'est peut-être le championnat où elle doit pouvoir se révéler. Mais est-ce qu'elle va supporter cette pression où on attend une équipe et puis finalement... Peut-être qu'en huitième de finale, ça ne suffira pas parce que vous tombez contre un adversaire qui est aussi fort et ça se joue dans des détails.
On va parler de l'Allemagne. On se souvient de l'Espagne qui avait réalisé le doublé Coupe du Monde Euro avec une équipe remarquable, des joueurs qui se connaissaient par cœur. Cette Allemagne-là, elle en est capable d'après vous ?
Ah, c'est une question difficile à répondre. Je serais tenté de dire oui, parce que elle a pas énormément changé. Elle a dans son équipe, évidemment, Reus n'est plus là, mais elle a quand même des joueurs d'un potentiel extraordinaire. Maintenant, je l'ai trouvé un petit peu hésitant défensivement. Elle joue avec un Hummels latéral qui est pas vraiment un vrai latéral. C'est une équipe qui quelque part est capable d'un instant à l'autre à vous faire vibrer, qui reste la grande Allemagne. On sait très bien qu'il faudra compter sur elle pour le dernier quart, à mon avis.
Alors quand l'Espagne avait justement réalisé ce doublé, il pouvait compter sur une solide assise avec Xavi, avec Iniesta. Là quand même, l'Allemagne, on parle souvent de colonne vertébrale dans le foot, hein, comme quoi c'est le plus important. Là, l'Allemagne, elle manque quand même un petit peu d'assise, hein, j'ai envie de dire. Vous parlez de défense, aussi au niveau du milieu défensif, Schweinsteiger n'est plus ce qu'il était, et il manque surtout le leader qui était l'âme.
Oui, c'est clair, c'est une page qui se tourne, mais on sait des fois que, souvenez-vous, les Français sont devenus champions du monde avec Trezeguet et avec Henry, qui étaient des jeunes joueurs qu'on connaissait peu. Les Allemands ont des joueurs aussi moins connus, mais qui sont quand même déroutants. Drexler est capable de faire changer un match. Ils ont Götze, qui a relativement peu joué cette saison avec le Bayern, mais qui est quand même un joueur extraordinaire. Ils ont quand même des joueurs d'expérience, un Khedira, un Müller, qui sont là, et il faut surtout jamais sous-estimer l'équipe d'Allemagne.
Justement, on dit souvent qu'à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. On pourrait retrouver ce scénario cette année.
C'est pas toujours l'Allemagne qui gagne, mais disons qu'en tout cas, elle est souvent très très bien placée.
Et cette année, elle est capable clairement de rééditer, d'après vous?
Cette année, c'est difficile de voir un favori. Il y a tellement d'équipes qui seront là, mais je répète, il faut faire attention de ces trois premiers matchs de qualif, parce que on a vu une Italie qui était très belle l'autre jour, une Belgique un peu décente, puis tout à coup, lorsque vous arrivez avec des matchs à élimination directe, c'est là que les grands joueurs s'affirment, c'est là que les grandes équipes, les grands entraîneurs aussi, mettent en place des choses, et je dois dire que cet Euro est très très ouvert.
Cyril Maillard, vous êtes le responsable de la formation au sein du partenariat Béjune, qui forme les meilleurs talents de la région. Merci d'avoir été en direct avec nous.
Merci à vous.